Nous avons eu un bon temps de louange, d'adoration, de prière. C'est important pour pouvoir nous préparer devant le Seigneur, pouvoir l'adorer, le louer, comme on l'a dit. La louange, ce n'est pas juste un certain temps, le dimanche matin, mais c'est à chaque instant de l'adorer, de le louer, de contempler la gloire de notre Seigneur. Et la prédication, c'est aussi justement une adoration, c'est de pouvoir écouter, entendre ce que le Seigneur veut nous dire à travers sa parole et qu'on puisse être encouragé aussi à grandir avec lui. Donc aujourd'hui, on va continuer ou reprendre plutôt l'étude des lettres aux églises que nous avions commencé l'année passée. Rappelez-vous donc l'apôtre Jean a écrit dans l'Apocalypse et aujourd'hui on va voir la cinquième lettre, celle de l'église de Sardes et le titre c'est Réveille-toi. Nous allons voir que cette église avait besoin d'être réveillée, d'être changée, transformée. Et ça puisse aussi nous encourager, nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, de prendre le message qu'il a adressé à cette Église et aussi de nous réveiller aussi pour le Seigneur. On voit que ces différents messages apportés aux différentes Églises sont là justement pour nous réconforter, pour nous avertir, pour montrer les choses que nous pouvons faire et aussi justement des choses peut-être, des lacunes dans nos Églises. Même si ces lettres ont été écrites spécifiquement à des églises locales spécifiques, mais aujourd'hui encore, les messages ou les principes qui sont dans ces lettres sont encore vrais pour nous aujourd'hui. Et même si ces lettres sont adressées à des églises, nous savons que nous sommes l'église. Chacun de nous, nous faisons partie de cette église. Donc, chacun de nous, nous sommes aussi interpellés aussi par les messages qui sont adressés. Donc, rappelez-vous donc que l'apôtre Jean a été condamné à cause de sa foi et est déporté vers l'île de Patmos, où il écrit l'Apocalypse qui veut dire révélation de la part de Dieu. Et on le voit dans le verset 3 du chapitre 1. Ouvrez votre Bible, puisqu'on va après aussi regarder un peu plus loin aussi les différentes églises. Chapitre 1, verset 3, il dit: Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent. Et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. J'aime beaucoup ce verset. Dès le début de l'Apocalypse, Jean reçoit cette révélation par le Saint-Esprit et va dire: Heureux celui qui donne lecture des paroles de ces prophéties et qui les entendent. Donc, on a besoin de les faire lecture, on a besoin de les entendre, mais aussi après, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est là un peu le grand défi. Nous pouvons lire, nous pouvons étudier la parole de Dieu, nous pouvons entendre ce que Dieu veut dans sa parole, dans sa volonté, mais ensuite il dit, et qui obéissent, car le temps est proche. Même pour l'apôtre Jean, il pensait que le temps était proche, peut-être dans quelques années, que le Seigneur allait revenir. Même 2 000 ans plus tard, on est toujours dans ce temps proche et on voit comment que le temps proche arrive. Qu'on doit rester fidèle, qu'on doit être averti par ses paroles, qu'on doit les écouter, les étudier, les lire et surtout de les mettre en pratique. Donc ces prophéties ont été apportées pour que les personnes les écoutent et soyez avertis que le temps de la fin est proche. Ce n'est pas dans le sens de nous faire peur, mais nous rappeler de l'importance de veiller, d'être attentif à garder notre foi solide. Alors, on va regarder brièvement, parce qu'il y a un rappel, hein, comme notre frère Jonas nous disait toujours, hein, le rappel, c'est pédagogique, hein, le fait de rappeler, de nous souvenir de ce qu'on a vu. Donc, on va regarder les 2 premières lettres qu'on a déjà étudiées, juste brièvement, quelques points importants, avant d'aller dans l'église de Sardes. Donc, la première lettre qui était faite, c'est à l'église d'Éphèse. Donc, cette ville était placée à la jonction des voies commerciales naturel, donc sur l'artère principale qui allait de Rome à l'Orient. Donc c'était une ville qui était très importante, avec un très grand port. Au verset 2, donc le Seigneur donne des compliments à l'église d'Éphèse. Il dit, c'est une église travaillante. Elle est engagée dans l'œuvre de Dieu. Elle porte du fruit. Une église travaillante, une église qui travaille pour Dieu, qui donne des résultats, qui donne des fruits. Ici, il n'est pas forcément parlé de croissance numérique, mais de croissance spirituelle. Il est dit aussi que c'est une église persévérante. Elle a persévéré malgré toutes ses souffrances. Elle a dû être persécutée, elle a dû connaître des conflits, elle peut vivre des scandales. mais elle est restée fidèle à persévérer, même dans les temps moments difficiles. C'est une église aussi disciplinée, une église qui exerce la discipline, parce qu'elle veut se garder pure. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde, à être acceptée par la majorité. Donc une église disciplinée est capable de discerner s'il y a des personnes qui apportent des paroles qui ne sont pas dans la vérité de Dieu. L'Église est capable de discerner ces personnes qui font le mal ou qui entraînent d'autres personnes dans le péché. Et aussi, on voit, c'est une Église instruite, une Église qui est bien équipée dans la doctrine, solide dans sa foi. Elle ne donne pas son assentiment à n'importe qui. Au contraire, ceux qui parlent au nom de Dieu, ils discernent ceux qui sont des menteurs. Elle les démasque, elle les condamne. Donc, c'est vrai que lorsqu'on voit tous ces paragraphes intéressant, positif de cette église d'Éphèse, on aimerait tous être comme cette église. Mais nous savons, comme nous connaissons aussi cette église, prochain dia, que malgré toutes ces qualités qu'elle avait, malgré tout l'impact qu'elle avait, il y a un grand reproche très important. Tu as perdu ton premier amour. Dans le sens que toutes ces qualités qu'elle avait développées, elle l'a fait en perdant le but essentiel de ce qu'elle était une église, c'est-à-dire de le faire dans l'amour. Elle faisait toutes ces belles choses sans amour. Elle travaillait, mais sans amour. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, mais sans amour. Elle était persévérante, mais sans amour. Elle était disciplinée tellement qu'elle a perdu cet amour pour ceux qui étaient dans l'erreur. Elle est devenue une église exigeante, religieuse, où les règles sont plus importantes que l'amour. Voilà pourquoi qu'il dit dans le verset 5: Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, et si tu ne changes pas. Nous savons comment c'est assez facile de perdre notre premier amour pour le Seigneur. Avec le temps, avec les années, avec peut-être une certaine routine dans notre vie chrétienne, dans nos vies de tous les jours, on peut vivre justement à un moment donné sans amour de Dieu. On fait les choses sans amour. On prie sans réellement vraiment chercher la face de Dieu. On lit la parole de Dieu sans qu'elle vraiment nous touche. On va à l'église, on chante, on loue le Seigneur, mais dans notre cœur, il y a quelque chose qui manque. Si nous n'avons pas cette passion, si nous n'avons pas cet amour réel pour notre Dieu et aussi pour nos frères et sœurs, alors il nous manque une grande chose. La deuxième lettre, justement, prochain dia, s'adresse à l'église de Smyrne, qui, elle, n'a pas eu de reproche, d'avertissement, de changer quelque chose. On le voit dans chapitre 2, verset 9. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ce bout de phrase ne parle pas de richesse matérielle, mais plutôt de richesse spirituelle. L'église de Smyrne était petite, sans éclat, sans apparence, par rapport à peut-être à celle d'Éphèse. Mais elle était riche parce qu'elle a gardé cette flamme pour le Seigneur, tellement intacte que Jésus n'a rien à lui reprocher. Elle est persécutée, mais elle est restée fidèle. Donc on peut voir que même si peut-être nous sommes sans éclat, même si l'Église est petite, sans éclat, sans forcément que beaucoup de gens la voient, ces églises peuvent être des lumières et des témoignages. Donc Dieu ne regarde pas la grandeur, Dieu ne regarde pas à la façon des ministères ou tout ce que les activités qu'on fait, mais regarde au cœur, regarde comment est-ce que nous fonctionnons. Donc cette Église est fidèle à cause de quoi? De la persécution et de la tribulation. Donc cette église vivait, de la part de nombreux Juifs qui étaient dans cette ville, justement beaucoup de persécutions. Même certains ont terminé en prison. Mais elle est restée fidèle. L'église de Smyrne était une église sans hypocrisie. Lorsqu'on est persécuté dans notre foi, c'est comme un feu qui brûle dans notre cœur. Et c'est ça qui nous fait permettre de rendre pur. Parce que lorsqu'on est persécuté, soit physiquement ou maltraité aussi, ben, pour pouvoir continuer de marcher avec le Seigneur, il faut vraiment s'accrocher par la foi. Il faut être sûr de dire, est-ce que je veux vraiment être capable d'être persécuté à cause de ma foi ou est-ce que je risque de lâcher? Donc la persécution est un feu qui brûle le péché dans l'Église. Et on le voit tellement comment que dans les milieux où l'Église est beaucoup persécutée, au Moyen-Orient, peut-être dans certains pays aussi, où il y a encore le communisme et autres, comme la Chine. On voit comment que l'Église est rayonnante, comment l'Église a un impact. Et il y a cette promesse à la fin du verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de la victoire. N'est-ce pas ce que nous aimerions avoir? D'avoir cette couronne de vie c'est-à-dire d'être sauvé pour l'éternité par Jésus-Christ. Mais ça implique de rester fidèle, malgré les défis et les persécutions, de rester fidèle dans la persévérance. Alors maintenant, regardons justement le prochain dia en détail cette cinquième lettre à l'église de Sardes. Ouvrons notre Bible dans Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Donc Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Verset 1, il dit, « À l'ange de l'église de Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. » Verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu es à Sardes, quelques personnes qui n'ont pas salué le vêtement. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. » Verset 5, « Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Il est intéressant de remarquer le lien étroit entre l'Église et la ville de Sardes. Et on le voit à travers les différentes lettres, comment que la ville peut avoir une influence, ou comment que la ville peut avoir une influence positive ou même négative aussi sur l'Église. Donc, 700 ans avant Jésus-Christ, cette ville était l'une des plus grandes de son époque. Cette ville était très riche. Elle était aussi bien protégée. Sa situation géographique l'avantageait de justement qu'elle était difficile à prendre par les ennemis. De sorte qu'il régnait dans cette ville un esprit d'orgueil, donnant aux citoyens l'illusion qu'ils étaient invincibles. Mais il se produisit, comme dans beaucoup de peuples orgueilleux, une catastrophe. Aujourd'hui, on dit que cette ville, il n'y a plus rien. C'est juste un petit village aujourd'hui qui existe encore. Donc, on dit que cette ville a été réputée pour deux choses. Premièrement, pour son industrie de laine et de teinture. Il y avait énormément de commerce qui faisait la promotion, le développement de la laine et la teinture, et sa débauche. Et l'Église reflète l'histoire de la ville. Cette congrégation, justement, s'est trop confiée en sa position confortable. Elle avait un passé glorieux. Elle cultivait ce souvenir, mais ses œuvres étaient devenues répréhensibles devant Dieu. Après avoir goûté à la vie, elle s'est laissée engourdir par la mort. Donc cette église est devenue morte parce qu'elle s'est détachée de sa dépendance envers celui qui donne la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Elle pratiquait ses œuvres par la chair et non par l'Esprit de Dieu. On voit comment qu'encore aujourd'hui, l'église, le corps du Christ, comment est-ce qu'on peut venir régulièrement insensible à l'Esprit de Dieu? Lorsque l'église est trop orgueilleuse, lorsqu'elle se sent tellement bien dans sa position, dans sa routine, Dieu n'est plus présent dans l'Église. On fait beaucoup de belles choses, des fois à l'Église, mais on n'est plus vraiment dans la volonté de Dieu. Une belle Église rayonnante, mais qui ne marche pas selon Dieu, qui est morte à l'intérieur. Prochain dia, on voit au verset 1. Il dit, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. » Donc on a vu que dans le chapitre 1, verset 20, que les sept étoiles sont les anges de cette église, c'est-à-dire les leaders, les responsables des églises. Donc, Jean va écrire aux anges, aux responsables, aux leaders de chaque église. Là, on voit que Jésus réaffirme qu'il connaît les responsables de cette église et que c'est lui qui les a mis en place. Il veut aussi dire qu'il a le contrôle sur ces leaders, dans le sens qu'ils sont là, non pour faire régner leur propre argument ou leur connaissance, mais pour apporter la doctrine, la vérité de Jésus-Christ, l'enseignement de la parole. On dit que justement les sept esprits de Dieu dans ce chapitre 3, verset 1, représentent Jésus. On sait que le chiffre 7 est le nombre parfait pour Dieu. Et ces sept esprits peuvent représenter ce que Jésus connaît parfaitement, les œuvres de cette Église. Donc ce que Jésus veut nous rappeler dans ce verset 1, c'est qu'il est au contrôle de l'Église, même celle qui est morte dans le cas de Sardes, qu'il est au contrôle des leaders, des pasteurs, des dirigeants des Églises, et qu'il va venir juger autant l'Église que les responsables de comment ils ont géré l'Église du Seigneur. Ce verset devrait nous faire réfléchir ce matin, non dans le sens que nous avons une responsabilité, chacun de nous devant Dieu. On a une responsabilité les uns envers les autres. Oui, c'est vrai que le pasteur, les responsables, les leaders ont une responsabilité de faire fonctionner l'Église, de pouvoir entourer, encadrer l'Église pour faire avancer l'Église dans les plans de Dieu. Mais ensuite, chacun de nous, chacun de vous, vous avez aussi un rôle à jouer dans l'Église, dans le sens qu'il y a aussi cette responsabilité de veiller sur sa foi, sur ses convictions, ses paroles et ses actes. Il y a une responsabilité envers la personne qui est à votre gauche ou qui est à votre droite. Dites à la personne qui est juste à côté de vous ce matin que vous n'êtes pas juste un voisin ou un frère ou un sœur dans l'Église, mais que vous êtes responsable de veiller sur lui, de veiller sur elle, afin qu'elle garde la foi et qu'elle ne s'égare pas ou ne s'éloigne pas de Dieu. Dites-la à la personne à côté de vous. C'est important que vous lui dites, tu es mon frère, tu es ma sœur dans la foi, je veux veiller sur toi, je veux prier pour toi, je veux t'encourager, je veux te préserver aussi lorsque peut-être tu chutes ou lorsque peut-être tu tombes dans le péché. C'est ça la grande famille du Seigneur, c'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas simplement juste un temps où on est bien ensemble, où on se recueille puis on loue le Seigneur, mais c'est un temps où on veille les uns pour les autres. On s'encourage, on montre qu'on est intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. On est prêt à prendre aussi nos armes, la prière, l'encouragement pour pouvoir les faire avancer autour de nous. Sinon, prochain verset, prochain diable, parce que sinon nous allons avoir cette remarque de Jésus, comme il l'a dit à Sardes. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. De se faire dire cela par le Seigneur, c'est grave. De croire qu'on est une église qui jouit de grandes choses, une église qui est grande, qui est belle, qui fait plein d'activités, qui est pleine de réjouissance, que les gens la voient. Mais de se faire dire par le responsable, par le chef, par le Dieu, celui qui est le responsable de l'Église, le chef, par Jésus, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. C'est vrai qu'on pourrait dire aujourd'hui, waouh, cette Église ferait les manchettes des journaux pour tous les ministères qui sont dans l'Église, tout le travail qui se fait dans la ville, tout le bien qu'ils font parmi les pauvres peut-être. Les gens seraient épatés et diraient, waouh, cette Église est vraiment une Église qui agit, qui est impliquée. Et lorsque les gens rentrent dans cette Église, ils voient comment elle est belle, son architecture, ses décorations. Ils remarquent tous les différents ministères qu'ils accomplissent, toutes les belles choses. Bref, au premier coup d'œil, on est impressionné par toute cette beauté, par cette grandeur. Mais Jésus va lui dire à cette Église que malgré toutes ses bonnes œuvres, elle est morte. Malgré tout ce qu'elle fait pour ses fidèles, le bien qu'elle fait autour d'elle, cela ne vaut rien aux yeux de Dieu. Est-ce que les personnes qui rentrent dans l'Église sont plus impressionnées par toute la façade ou les artifices de l'Église que réellement par son message? Ce qui est inévitable pour une Église morte, c'est la présence des non-croyants identifiés comme des chrétiens. Combien de fois, justement, il y a des gens dans l'Église qui se disent chrétiens, mais qui n'ont aucune vie avec le Seigneur. Et on leur laisse la place. On les met dans des places de responsabilité parce qu'ils ont des ministères, parce qu'ils ont une belle voix, parce qu'ils ont du charisme. Je me rappelle une église dans ma ville, une belle église, un temple, un très beau temple. Et à un moment donné, ils ont changé le pasteur. Et j'ai appris que le pasteur qui arrivait ne croyait même pas en Jésus-Christ. Donc, il prêchait à l'Église juste Dieu, l'amour, le respect, puis la bonté de Dieu. Mais Jésus-Christ, le fait de se repentir, Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, il ne l'a jamais prêché. L'Esprit de Dieu dit à cette Église, « Mais tu es mort. » C'est quelque chose qu'on n'aimerait pas entendre. Mais Jésus est obligé de le dire parce que ce qui se passe dans cette église, tout est centré sur autre chose que Jésus. C'est comme les programmes, les activités sont plus importantes qu'une véritable relation avec Jésus. Comme le point central qui devrait être l'annonce justement de l'Évangile. L'amour de Dieu, on ne le trouve plus. C'est juste une activité qu'on fait. Le péché et la repentance ne sont plus prêchés. La sainteté et la sanctification n'ont plus leur place. Voilà pourquoi dans le prochain dia, l'Esprit va dire « Sois vigilant et affermis le reste. » Sois vigilant et affermis le reste. C'est ce que veut dire l'Esprit de Dieu demande aux dirigeants. D'être attentifs afin de voir qu'ils sont devenus, dans ce qu'ils pratiquent, afin de changer le tir, de rétablir la vérité. Ces dirigeants, ces leaders étaient tellement préoccupés par ce que l'Église devait offrir à la visibilité de l'Église qu'ils ont oublié le message central de l'Église, d'être des chrétiens qui professent le nom du Seigneur dans leur cœur, dans leur action, tout cela dans la vérité. Dites-moi, n'est-ce pas un peu aussi le danger que nous avons pour l'Église aujourd'hui? D'être tellement préoccupés par l'image que nous voulons donner, de tous les programmes que nous faisons, tout ce que nous pouvons accomplir, entre guillemets, pour Dieu, que nous oublions le message central de l'Évangile, c'est-à-dire d'être un véritable témoin de Jésus-Christ. Je me rappelle aussi, dans un moment donné, dans mon ministère, et même aussi en tant que pasteur ici, j'étais préoccupé d'essayer de faire toutes sortes d'activités, toutes sortes de programmes, mais que j'ai réalisé aussi l'importance, avant tout, c'est d'avoir cette relation avec le Seigneur. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir des activités, des programmes, si ils nous conduisent vers le Seigneur. Mais si nous faisons nos programmes, nos activités simplement pour être là, pour nous rencontrer, pour pouvoir vivre un temps ensemble, mais s'ils ne sont pas centrés sur Jésus-Christ, s'ils ne nous amènent pas au pied de la croix, alors peut-être qu'on a besoin de changer cela. Le Seigneur veut nous dire encore ce matin, je connais toute œuvre, je sais que ce que tu fais pour moi, mais tu es mort, tu es sans vie. Sois vigilant, sois centré sur moi afin que de ne pas tomber juste dans l'activisme, c'est-à-dire de faire des œuvres, mais sois centré sur moi, sur le cœur du Seigneur, attentif à l'Esprit de Dieu. Et il veut nous dire aussi, affermis le reste, c'est-à-dire, avant de te préoccuper de tous les artifices en images que tu peux projeter en tant qu'Église, affermis ceux qui sont tièdes, affermis ceux qui ne sont pas encore souillés avec le monde. Nous avons une tâche justement en tant qu'Église. Le Seigneur nous demande justement ce matin de l'accomplir dans la vérité, selon son esprit. Notre tâche doit être de veiller l'un sur l'autre, comme une véritable famille, qui veulent se protéger justement entre eux, qui sont prêts à se sacrifier l'un pour l'autre. Et c'est vrai que ça peut être dérangeant de peut-être de voir la personne à côté de nous, à gauche ou à droite, parce qu'on a besoin de prendre du temps avec elle, on a besoin de la connaître, on a besoin de l'aider dans ses difficultés, on a besoin de ne pas la lâcher dans les moments difficiles. Donc ça demande un investissement, ça ne demande pas juste de s'asseoir le dimanche matin et dire bonjour à la personne à côté de nous, mais ça demande de savoir comment a été ta semaine. Est-ce que tu vis quelque chose de difficile? Quelles sont tes préoccupations, tes défis que tu vis actuellement? C'est ça l'Église locale, c'est être ensemble pour s'entraider, se corriger l'un vers l'autre, ne pas laisser une personne seule. Vous pouvez le faire autant aussi que le responsable et le pasteur, parce qu'eux aussi ont besoin d'être soutenus, encouragés. Nous aurons tous des comptes à rendre lorsque nous serons avec le Seigneur. Est-ce que lorsque nous serons avec lui, lorsque nous serons devant le juge, le créateur, est-ce que nous pourrons dire, oui Seigneur, j'ai pris soin de mes frères et sœurs à côté de moi. J'ai pris soin de prier, d'intercéder pour le pasteur, pour les responsables, afin qu'ils continuent de guider l'Église dans le droit chemin. Prochain dia, on voit au verset 3, que Jésus leur rappelle de comment ils ont commencé, comment ils ont reçu la parole, comment ils se sont transformés leur cœur et leur vie. Comment cette parole a changé tout en eux. Jésus leur dit de se repentir, de justement d'avoir manqué de garder cette parole, de revenir ce qu'ils avaient entendu au début de ce qu'ils avaient vécu. Se rappeler justement toutes les grâces que Jésus a données lorsqu'il est venu pour nous donner le salut de notre vie. Pour nous aujourd'hui, Nous pouvons facilement, et moi le premier, tomber dans une certaine routine chrétienne, de faire les choses avec Dieu machinalement, par habitude, sans se poser de questions. Mais Dieu veut nous dire ce matin, rappelle-toi comment je t'ai sorti de ton ancienne vie, de tes péchés qui t'emprisonnaient, qui te faisaient mal, qui t'amenaient dans une vie sans lendemain et sans joie. Rappelle tout ce que j'ai fait pour toi et reviens à moi avec un cœur sincère, désirant vraiment être transformé. Se rappeler justement nous permet de réfléchir sur notre vie, sur nos buts, de faire un bilan de ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Sinon, il va être comme il dit dans la suite du verset 3, qu'il va venir comme un voleur qui va surprendre. On n'aime pas qu'un voleur vienne dérober des choses dans notre vie, dans nos maisons. Si on saurait à quelle heure qu'il viendrait, bien on serait sur la garde, on fermerait bien les portes, on verrait pour pas qu'il puisse rentrer. Mais le voleur, l'ennemi, Satan, veut venir quand s'attend le moins. Lorsque justement, peut-être on vit une certaine routine, lorsque peut-être on n'est plus alerte avec l'Esprit de Dieu. Alors, si nous ne sommes pas alertes avec le Seigneur, si nous ne sommes pas connectés réellement avec le Seigneur, alors le voleur va venir et va enlever cette passion, va enlever ce désir vraiment de suivre le Seigneur. Tout passe par la repentance et l'humilité. Dans le sens que nous avons déjà dit de l'importance de dire Seigneur, même si ça fait des années que je marche avec le Seigneur, même si je connais ta parole par cœur, même si j'ai fait des études bibliques, même si j'ai un ministère particulier, j'ai besoin de toujours, jour après jour, de rester dans l'humilité, dans la repentance. On l'a vu encore vendredi soir lors de la soirée Impact Prière. Avec l'explication de 2 Chroniques 7,14, de ce message par le pasteur Louis Bourque, pour nous rappeler de l'importance que si le peuple de Dieu veut avoir que le pays soit guéri, que Dieu écoute ses prières, alors il y a des conditions. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, nous devons nous humilier, nous reconnaître qu'on a besoin toujours de Dieu, reconnaître que ce n'est pas nos suffisances, ce n'est pas. Nos orgueils, ce n'est pas toutes nos capacités, mais c'est seulement de dire Seigneur, c'est toi le grand roi et je suis simplement ton serviteur. Je veux rester sous ton regard. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche sa face, on a besoin de régulièrement de chercher sa face à travers la parole, de la prière, en tant qu'Église, pouvoir comprendre, écouter ce que le Seigneur veut nous dire. S'il se détourne de ses mauvaises voies, alors, je l'écouterai des cieux, alors je guérirai son pays. Cette promesse est encore vraie pour nous aujourd'hui, ces principes sont encore vrais pour nous. On ne peut pas être une église florissante aux yeux du monde, si tout ce que nous avons avec le Seigneur est perdu, ou tiède, ou n'a plus de valeur. L'important, c'est d'être passionné pour le Seigneur. L'important, c'est d'avoir ce cœur repentant, ce cœur d'humilité, et de chercher toujours la face de Dieu, afin de rester sous son regard. Prochain diable, donc on voit dans cette église qu'il y avait des hommes droits, dans le sens qu'ils n'étaient pas souillés, qu'ils n'étaient pas dans une belle religion en apparence. Le vêtement blanc qui est cité dans le verset 4 représente la pureté du cœur et de leur action. Donc ces hommes sont restés droits devant Dieu toute leur vie. On compare souvent l'église de Sardes. Quand l'Église est devenue une institution où il y avait toutes sortes, il y avait juste un bâtiment qui était comme une église et le message était vide et sans impact. Pour ceux qui suivent un peu l'histoire de l'Église, on a pu voir comment, à partir du 4e siècle, où l'Église est devenue, le christianisme est devenu la religion d'État, où justement l'empereur Constantin a dit ben, ce serait bien que tout le monde croie en Dieu et que tout le monde va à l'Église. Et à ce moment-là, même les princes, les rois étaient devenus des prêtres aussi, les dirigeants de l'Église. Et on a vu qu'à un moment donné, le déclin justement du christianisme à ce moment-là. Parce que tout le monde allait à l'Église, tout le monde adorait Dieu. Mais Dieu a rejeté cette Église parce elle était morte. Mais si vous suivez l'histoire un peu, si vous lisez un peu des livres, Il y a un livre, un très bon livre qu'on a aussi dans la bibliothèque qui s'appelle L'Église ignorée, qui raconte depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui comment que toute l'histoire de l'Église et comment qu'il y a eu dans chaque époque, dans chaque contexte ou environnement, une Église, une petite Église qui est restée fidèle. Malgré si justement l'Église s'est compromise, malgré si l'Église est devenue morte, il y avait toujours un reste qui était fidèle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler justement des Vaudois. C'était un peuple dans les montagnes en Suisse, en France, qui sont restés vraiment fidèles à Dieu, qui vivaient quelque chose de fort avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Puis après, plus tard, il y a eu les Moraves. Et il y a eu aussi avec John Wesley lorsqu'il y a eu le réveil. Si nous regardons l'histoire, nous voyons qu'il y a toujours un reste qui est resté fidèle pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes ce reste? Est-ce que nous sommes ces hommes et ces femmes qui ne sont pas souillés avec le monde? Est-ce que nous sommes ces jeunes qui restent fidèles dans nos agissements envers Dieu? Et il y a une promesse au verset 5, que celui qui n'est pas souillé, il va recevoir un vêtement blanc. Donc celui qui est resté fidèle va recevoir une récompense un jour pour l'éternité. Mais avant de recevoir cette récompense céleste, il va aussi avoir une récompense aussi terrestre. Parce que Dieu est bon et Dieu est merveilleux pour chacun de nous. Il veut nous donner des bénédictions sur cette terre. Il est aussi parlé d'un avocat dans ce verset. Dans le sens que Jésus est celui qui nous défend devant les autres, devant même nos ennemis qui veulent nous condamner. C'est lui qui répond de nos actes. C'est lui qui défend devant le juge, qui connaît notre cœur. À cause de son sacrifice sur la croix pour nos péchés, nos fautes, il est le seul avocat qui est capable de plaider pour demander la grâce, la bonté de Dieu pour être changé, racheté. Et la promesse du verset 5 est importante. Je n'effacerai pas son nom du livre. Ça veut dire que ce matin, si on regarde ce texte, que nous pouvons être effacés de la liste de ceux qui sont sauvés. C'est vrai que dans l'Église, il y a différentes croyances. Il y en a certains qui pensent que peut-être qu'une fois on est sauvé une fois pour toutes. D'autres croient, comme nous, en tant qu'Église méthodiste, que oui, Dieu est un Dieu de grâce. Oui, que lorsqu'on a cette assurance du salut, ben, on continue de marcher avec le Seigneur. Et même si peut-être, oui, c'est vrai qu'on peut pécher, on peut tomber, mais Dieu de sa grande grâce nous relève. Mais on reconnaît aussi que si la personne a connu le Seigneur, mais qui à un moment donné ne marche plus dans le Seigneur, s'il commence à faire les choses contraires à Dieu, s'il continue justement à être orgueilleux, malgré les avertissements de Dieu, malgré les avertissements des frères et sœurs, que son nom peut être effacé du livre. Ce n'est pas vous mettre une pression ce matin, mais ce bout de phrase est une vérité, il est dit par Jésus. Chacun de nous pouvons examiner ce matin qui nous sommes. On ne doit pas se culpabiliser de savoir est-ce que je suis sauvé ou pas. Dieu nous donne cette assurance. Dieu nous donne cette assurance que nous sommes sauvés par grâce. Dieu nous donne cette assurance que si nous marchons jour après jour dans cette lumière, nous allons hériter de la vie éternelle. Et lorsque je vois justement des personnes partir, comme dernièrement aussi avec notre frère Jonas, comme avec mon propre père, lorsque je vois que dans les dernières paroles qu'ils disent, ils disent Seigneur, j'ai hâte d'être en ta présence, qui chante les louanges de Dieu, qui récite les paroles de Dieu, nous montre que ces personnes ont gardé cette assurance, ont gardé cette foi jusqu'à la fin, et qui sont capables, même sur le lit de la mort, même dans les souffrances, de dire, Seigneur, je viens vers toi, parce que je suis resté fidèle. J'ai obtenu la couronne de vie. Le Seigneur veut nous avertir dans cette année 2024 que nous ne sommes pas là pour jouer à l'Église. Même faire pour toutes sortes de programmes pour glorifier l'Église ou démontrer que nous sommes bons. Mais de voir sous le regard de son esprit de comment est-ce que nous vivons l'Évangile de Jésus-Christ. Comment que cette bonne nouvelle nous sauve, nous transforme. Et nous terminons. Cette lettre se termine comme à chaque autre lettre, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. L'avertissement de Jésus qu'il nous donne ce matin est sérieux et est encore vrai pour nous aujourd'hui. Nous avons tous à nous examiner voir si nous sommes dans cette vérité, dans la droiture de nos agissements. Ce matin, l'avertissement était aussi à l'église, à notre église aussi, à Carrefour-Saint-Ré, de voir son état, de voir si nous sommes avec le Seigneur ou si nous faisons les choses selon le monde, d'être capable de changer, de se réveiller pour revenir dans les voies de Dieu. Voilà pourquoi que nous pouvons dire oui, Église de Sarthe, réveille-toi. Église de Carrefour, réveille-toi. Église, puis même chacun de notre nous, puisque nous sommes l'Église, réveille-toi. Reviens dans l'humilité, dans la repentance vers le Seigneur. Agis selon la droiture de la vérité. Agis selon la parole de Dieu dans sa volonté. Le Seigneur veut nous raffermir ce matin pour que nos paroles, nos actes correspondent aux critères de Dieu. Que nos agissements reflètent réellement Christ. Que notre lumière brille devant les autres et que chacun reconnaisse que nous marchons réellement pour notre Seigneur. Alors, nous pouvons savoir que lorsque le Seigneur va revenir, s'il revient aujourd'hui, demain, on ne sera pas étonné, on sera prêt à l'accueillir. S'il revient dans un mois, dans une année, dans 10 ans, on sera toujours aussi prêt à l'accueillir parce qu'on sera resté fidèle, parce qu'on sera voulu être persévérant dans la présence de Dieu. Alors simplement courbons notre tête. Et que cet avertissement à cette église de Sardes puisse refléter aussi dans notre cœur. De nous dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Est-ce que je vis une certaine vie monotone? Est-ce que je sens que peut-être ma foi défaille? Est-ce que je sens que je m'éloigne de toi parce que j'ai trop d'autres soucis, j'ai trop de problèmes, j'ai d'autres de préoccupations? Le Seigneur veut nous dire ce matin qu'il veut nous raffermir le reste. Il ne cherche pas quelque chose de grandiose, il ne cherche pas quelque chose qui est éclatant selon l'humain. Il cherche un véritable cœur, un véritable esprit qui est accroché au Seigneur. Alors on peut simplement dire encore ce matin, Seigneur, viens, viens raffermir ma foi, viens me permettre que je puisse continuer de marcher avec toi. Permets que, en tant que frère et sœur dans l'Église, je puisse aussi affermir ceux qui sont peut-être dans la difficulté. Il y a des personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas régulièrement. On a besoin d'aller les appeler, de les encourager. La semaine passée, nous avons eu justement notre sœur Suzanne qui est venue. Elle a été encouragée de voir ce que le Seigneur fait dans sa vie, mais je sais qu'elle vit des choses difficiles. Elle a besoin, même si peut-être, c'est vrai que peut-être que lorsqu'on l'a téléphoné, lorsqu'on a vécu on a eu des contacts avec elle, peut-être qu'elle nous a mal répondu, peut-être qu'elle a dit des choses, mais elle a demandé pardon. Il y en a besoin aussi de démontrer par nous-mêmes qu'on est capable de dire, ben oui, Seigneur, je veux aller l'appeler, je veux prier pour elle, pour que Dieu puisse continuer de l'encourager dans ce qu'elle vit. Seigneur, ce matin, on te remercie pour cette lettre à l'église de Sardes. Seigneur, on peut tellement aussi se dire que ce n'est pas notre cas, Seigneur. On est loin de ce que tu as écrit, ce que tu reproches à cette église. Mais nous devons reconnaître, nous devons nous humilier que trop souvent, Seigneur, nous ne marchons pas dans la lumière avec toi. Que trop souvent, Seigneur, notre passion pour toi s'est un peu anéantie. Que notre cœur est devenu tiède, que notre ardeur de te suivre, de marcher d'une façon juste et digne devant toi dans la vérité, c'est un peu assoupi. Alors oui, Seigneur, c'est avec humilité, avec repentance qu'on veut revenir pour dire, Seigneur, nous voulons que tu viennes nous raffermir, nous voulons que tu viennes nous rappeler l'importance d'être avec toi, l'importance que ce que tu dis dans cette lettre est là pour nous aussi, pour chacun de nous. Alors Saint-Esprit, viens, viens quand nous montrer dans notre cœur, dans notre vie, dans nos agissements, lorsque nous faisons à tous les jours dans le témoignage ce qui ne te glorifie pas, ce qui ne t'honore pas. S'il y a des choses peut-être que nous avons laissées même de côté, parce que peut-être c'est trop de douleur, c'est trop de difficile pour changer. Mais tu veux nous rappeler ce matin qu'on a besoin de tout te remettre, même les choses les plus difficiles. Parce que tu es un grand Dieu, tu es un avocat pour nous. Tu veux plaider pour nous donner cette grâce, cette bonté. Tu veux nous donner ces vêtements blancs, ce vêtement blanc qui est un vêtement pur, sans tache, qui nous montre que nous sommes lavés, purifiés en toi, que nous t'appartenons entièrement. Alors c'est notre désir, chacun de nous, ce matin, c'est que tu continues ce travail en profondeur en nous. Et que dans cette année 2024, nous puissions voir d'une façon nouvelle notre relation avec toi. Nous puissions voir que tu nous appelles à quelque chose de nouveau avec toi. Que tu nous appelles d'aller plus en avant. Nous voulons, Seigneur, te prier aussi pour que chacun de nous, nous puissions aussi être un témoignage aussi pour notre frère et sœur qui est à ta gauche, qui est à droite, notre frère et sœur qui est dans l'Église, qui passe par des moments difficiles. Seigneur, donne-nous cette responsabilité de savoir que nous devons nous soutenir les uns les autres. Que l'Église, le corps du Christ, c'est cette unité ensemble, c'est cette persévérance ensemble de s'encourager, de se redresser, de se corriger, de s'aimer de plus en plus. Alors, sinon, nous devons reconnaître aussi que souvent, nous regardons juste à nous, nous focusons sur nos vies, sur nos familles, en oubliant ceux qui sont à côté de nous. Seigneur, aide-nous, encore cette semaine, à avoir les yeux autour de nous. Autant, Seigneur, pour ceux qui sont à l'église que autant pour ceux qui sont autour de nous. Ceux qui passent par des moments difficiles, que tu puisses nous faire discerner, que nous puissions avoir ce cœur de compassion, de miséricorde que tu as, pour que nous puissions nous réveiller, pour que nous puissions réveiller les autres là où ils sont, afin qu'ils puissent changer, afin qu'ils puissent aussi avoir, eux, la couronne de vie, afin qu'eux aussi puissent avoir le vêtement blanc. Alors merci Seigneur parce que nous n'essayons pas par nous-mêmes, mais ton esprit va nous aider, ton esprit va nous faire discerner, ton esprit va nous donner les paroles qu'il faut, ton esprit va nous guider vers les personnes qui ont besoin. On veut simplement être disponible, on veut simplement être à ton écoute, afin que Seigneur nous puissions être ce témoin là où tu nous places. Seigneur, permets que l'Église Carrefour de Saint-Rie, dans cette année 2024, puisse encore grandir avec toi, grandir, progresser dans sa vie spirituelle, dans sa marche chrétienne. Que l'Église puisse vraiment devenir un modèle, un témoignage vivant de ce que tu fais aussi. Que l'Église puisse avoir un impact dans la communauté. Nous voulons faire une différence, Seigneur. Nous croyons que, Seigneur, que tu veux encore sauver. Nous croyons que, Seigneur, avant ton retour, tu veux encore donner cette grâce. Et on veut simplement, Seigneur, être là, disponible devant toi, pour rayonner pour toi, pour resplendir de ta bonté, de ta grâce, pour rendre gloire à toi seul. Alors merci. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, tu es bon. Merci parce que tu nous rappelles dans ta parole l'importance d'écouter, de lire ta parole, d'écouter et d'agir, de changer pour ta seule gloire. Nous te remercions, te louons, Seigneur Jésus, que chacun de nous, Seigneur, dans cette journée, dans la journée suivante, nous puissions continuer d'être restés sous ton regard, que nous puissions continuer de marcher dans la joie, dans la paix que tu nous donnes, et qu'on puisse continuer de te louer, de t'adorer, puisque tu es notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Nous te prions ça dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.